l'occupation de la bande.
On a quand même la conscience plus ou moins tranquille dans la mesure où recueillons une documentation destinée à l'enseignement et à la recherche, n'est-ce pas? Donc nous pouvons tous faire abstraction de nos propres idées sur quelques questions que ce soit, ce qui est très reposant. Et nous espérons que nos témoins, enfin, feront de même, parce que ce que nous cherchons à voir, c'est un témoignage varié sur tous les aspects de la ville d'Orléans. Témoignage qui s'accompagnera, n'est-ce pas, de l'expression française de chacun des témoins. Parce que ce sont des choses que nos étudiants en Angleterre n'ont pas l'occasion d'avoir pour eux-mêmes. Même s'ils viennent en France, le plus souvent, ils ne rencontrent qu'un tout petit cercle, une seule famille ou un petit groupe d'étudiants. Alors, je crois que ça peut leur donner une sorte d'illustration vivante des différents aspects de la civilisation française. Et nous avons choisi Orléans parce que ça nous semble une ville à la fois intéressante et assez commode, parce qu'on peut quand même faire le tour de la ville plus facilement que dans Lyon, Marseille.
Et vous êtes vous-même professeur en France ?
Je suis professeur de français en Angleterre.
Ah, je croyais que vous étiez professeur de français en France.
Non, pas encore. Quand même pas.
Et vous-même, monsieur, vous êtes également anglais ?
Oui, c'est ça.
Très bien. Tous les trois, donc.
Ah oui. Oui, c'est une invasion très
drôle. Et vous m'avez dit que vous avez retardé votre voyage en France en raison des événements. Vous m'avez dit d'ailleurs une phrase qui m'a bien intéressé. Vous m'avez dit, je crois qu'il y a eu certains événements en France que vous devez connaître et qui nous ont empêchés de venir au mois de mai.
Et cela d'ailleurs malgré à l'encontre de tous nos instincts. D'instinct, nous aurions été là sur place depuis le début du mois de mai, mais malheureusement...
C'était pas possible.
D'accord.
Et puis, il n'y avait pas que les transports. Il n'y avait pas que la grève des transports qui vous empêchait de venir. Et pourtant, vous avez manqué une excellente occasion d'entendre dialoguer tous les Français ensemble. Car du matin jusqu'au soir, tous les Français ont dialogué. Et vous auriez pu enregistrer. Et vous auriez eu tous les tons et toutes les nuances.
Oui, c'est une occasion manquée, en effet. Oui.
Non, que nous regrettons beaucoup, d'ailleurs.
Mais alors, là, vous êtes en France pour combien de temps, maintenant ?
Maintenant, pour une dizaine de jours.
Une dizaine de jours ?
Nous faisons maintenant une pré-enquête, n'est-ce pas ? Sur la base de l'analyse de cette pré-enquête, nous avons décidé des lignes à suivre dans l'enquête principale qui se fera en mars.
Mars prochain, je crois, ou en mars.
Et alors, c'est toute une organisation scientifique qui se met sur pied,
oui,
si je comprends bien.
Mais
nous sommes...
essayons d'organiser les choses. J'espère que ce sera une organisation scientifique, mais... Nous allons voir.
Nous essayons de faire pour le mieux.
Vous voulez enregistrer le maximum de témoignages dans tous les milieux de la population orléanaise.
C'est ça, oui. D'une part, des témoignages de personnes qui ont plus ou moins une position plus ou moins officielle, et d'autre part, ce que j'ai nommé les aléatoires, c'est des gens qu'on choisit un peu au hasard et à qui on pose des questions sur la vie, leurs idées, enfin.
C'est ça.
Et nous aimerions aussi monter, si c'était possible, des petites discussions où les gens parleront peut-être plus librement que en face de nos questions, de façon à voir exactement comment les gens se comportent en petits groupes quand ils discutent de quelque chose.
Oui, je vous avais indiqué un certain nombre de noms sur Orléans. Mais dans ce stade préliminaire, vous ne voyez que quelques personnes, probablement.
C'est ça.
Oui. Pour l'instant, une quinzaine, une vingtaine.
Voilà, oui.
Enfin, j'avais pensé que pour commencer, je vous demanderais de nous parler de la spécificité d'Orléans dans les domaines qui vous intéressent. En quoi Orléans serait-il différent d'une autre ville, enfin, de votre point de vue.
De notre point de vue, vous voulez dire du point de vue religieux, du point de vue catholique, alors.
Oui, c'est ça, oui.
N'est-ce pas?
Oui.
En se plaçant sur le point de vue de l'Église.
C'est ça, oui.
En quoi?
Par exemple, enfin, même pour être plus concret, dans le travail de tous les jours, est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques à Orléans que vous n'auriez pas ailleurs, ou bien des avantages qui sont particuliers à Orléans?
Oui. Ben, c'est une question, évidemment, qui est un peu piquante et brûlante, n'est-ce pas? Rapide.
Je ne l'avais pas voulu faire.
C'est vrai. Non, c'est parce que il ne faudrait pas être chauvin, n'est-ce pas, en disant que nous trouvons que notre ville a tous les avantages et que les autres n'en ont aucun. Il faut être loyal. Alors, évidemment, on aime bien notre secteur d'Orléans parce qu'on est originaire de la région, parce qu'on a toujours vécu dans cette région du centre, alors on y voit quand même un certain nombre d'avantages, comme on est attaché à son pays natal. Alors si maintenant vous nous demandez de l'analyser de l'extérieur pour savoir quels sont les avantages réels qu'il peut y avoir, je vous dirais que c'est une ville qui est du cœur, c'est du cœur de la France, c'est dans la moyenne. Vous entendrez dire certainement par beaucoup d'autres des personnes avec lesquelles vous vous entretiendrez que nous sommes un département moyen parce que nous sommes le département de 45 en France. 45. Il y a à peu près 90 départements et nous portons le numéro 45. C'est dire que nous sommes dans la moyenne. Alors on peut appeler la moyenne comme un peu au-dessus de la médiocrité ou comme un peu en dessous de ce qui est mieux. Nous sommes dans la moyenne. Et notre place, si vous voulez, dans l'Église de France, nous sommes aussi dans la moyenne. Il y a des régions de France qui sont dites des régions très chrétiennes. Il y en a d'autres qui sont dites des régions peu chrétiennes. Nous, c'est dans la bonne moyenne, on est bien avec tout le monde. Il y a un fond général de sympathie de la population locale envers l'Église. Nous entretenons certainement de bonnes relations avec tout l'ensemble des hommes qui partagent notre diocèse. Mais il n'y a pas d'excessif. Et puis je crois aussi qu'il y a quand même une sympathie générale envers l'Église qui fait que nous pouvons travailler à notre mission dans des conditions assez bonnes. Assez bonnes. On est dans la moyenne. Alors, dans l'Orléanais, si vous voulez, nous avons plusieurs régions géographiques. Et chaque région géographique a aussi son comportement vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de l'Église, vis-à-vis de la vie chrétienne. On dit qu'il y a la région de Beauce. Dans la région de Beauce, on dit que la culture est une culture qui rend bien, mais qui demande beaucoup de travail. C'est une terre solide, c'est une terre forte. C'est long à mûrir et à pousser, mais c'est solide. Alors on dit que le tempérament du Beauceron est un tempérament volontaire, travailleur, mais fidèle. Et quand il a donné sa foi à quelqu'un, c'est durable. Nous le ressentons certainement dans le comportement religieux. Il y a des traditions de famille qui se transmettent dans le domaine religieux comme dans tout le domaine du travail, du sérieux, de l'économie, de la résistance, des cultures. Il y a la tradition familiale. Nous sentons très bien que lorsque la foi est implantée dans une famille, c'est solide. On n'a pas peur de l'effort. Et les curés qui sont en Beauce sentent cet attachement de la population. Mais on sent aussi que le Beauceron n'accorde sa fidélité qu'après avoir bien connu. Il faut avoir fait ses preuves soi-même d'attachement au pays. Le Beauceron s'est observé longtemps, mais nos prêtres de Beauce, qui sont les curés de campagne, ont en général avec leur population ce lien, si vous voulez, qui n'est pas superficiel, mais en profondeur, qui correspond bien à la fidélité d'une race. Et puis, nous avons une autre région qui est le Gâtinais. Le Gâtinais, lui, c'est une région beaucoup plus boisée, d'une part, et puis beaucoup plus vouée à l'élevage. Et il y a aussi de la très bonne culture. Mais le Gâtinais est très accueillant, il est très bienveillant, il est très aimable. Mais on ne trouve pas, si vous voulez, la même profondeur d'attachement à la foi chrétienne dans le Gâtinais. Et puis c'est un pays dans lequel on aime la bonne vie. C'est un pays très joyeux. Les fêtes y sont plus nombreuses. Je pourrais vous dire que certainement, la morale chrétienne paraît plus difficile à nos gens du Gâtinais que dans la Beauce. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'attachement est peut-être moins en profondeur, mais il gagne tellement en spontanéité, en amabilité, en gentillesse, qu'ils ont peut-être davantage, si vous voulez, de l'Évangile, la caractéristique de la sympathie, de l'accueil et de la charité, mais qu'il faudrait peut-être moins chercher du côté du renoncement ou de l'austérité.
Est-ce qu'il y a une différence nette parmi les différentes couches sociales? À la mesure où vous arrivez à les toucher, à les attacher à l'Église. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des couches sociales qui, plus que d'autres, disons dans Orléans même, où évidemment la société est plus stratifiée peut-être, plus variée qu'à la campagne.
Oui, alors là on aborde l'autre point de vue qui n'est plus le point de vue géographique, mais qui est le point de vue sociologique,
oui.
N'est-ce pas, les différentes couches de la société. Il est bien vrai que dans les campagnes, le prêtre est à même de côtoyer tout le monde. N'est-ce pas? Il y a beaucoup moins de distinction entre les contacts que peut avoir le prêtre et puis les classes dirigeantes et le prêtre et le monde ouvrier. Le prêtre connaît très bien tout le monde, et il est en contact avec tout le monde dans un petit pays. Lorsqu'il s'agit d'une grande ville comme Orléans, le prêtre est bien plus en contact avec ceux qui viennent le voir, parce qu'il ne peut pas être en contact avec tout le monde. Alors, ceux qui viennent le voir, ce sont les hommes qui ont une formation chrétienne et qui font partie de la paroisse, et qui viennent à l'occasion de l'éducation des enfants, à l'occasion des offices, à l'occasion des cérémonies religieuses, qui viennent pour les baptêmes, pour les mariages, les enterrements, qui viennent toujours pour un but précis qui a trait à la vie chrétienne. Mais les contacts du prêtre avec les couches, avec les problèmes directs des hommes qui sont le travail sous tous ses aspects, ces problèmes-là sont certainement plus difficiles à aborder parce que le nombre des prêtres en ville est quand même très petit par rapport à la proportion de la campagne. Alors vous abordez là tout cet aspect de l'effort de l'Église actuelle pour n'être pas simplement en contact avec ceux qui traditionnellement sont chrétiens, mais le problème de l'Église, du contact avec tous les hommes, et en particulier avec ceux qui qui sont plus éprouvés quoi, dans le travail. Vous connaissez bien les problèmes actuels. Je n'ai pas l'intention en ce moment de pouvoir vous exposer quelles sont les difficultés de contact qu'il peut y avoir entre les églises, que ce soit l'église catholique, l'église protestante, l'église orthodoxe, toutes les églises, le monde des travailleurs. Nous connaissons tous, n'est-ce pas, comment le monde des travailleurs depuis un siècle a été travaillé par les théories du marxisme. Et nous savons très bien, quelle que soit l'église à laquelle nous appartenons, nous savons très bien qu'une grande frange du monde des travailleurs est séparée de l'église, avec des a priori peut-être, avec des jugements parfois vrais, mais c'est un fait. Et alors il y a certainement depuis une vingtaine d'années en France un effort considérable, surtout depuis la guerre de 40, il y a un effort considérable de rapprochement. Alors cela se manifeste de beaucoup de manières. Vous avez eu l'expérience des prêtres ouvriers, nous en avons quelques-uns dans le département, et il est certain que cela est une occasion pour eux, en même temps, de donner aux prêtres dans leur ensemble un écho du milieu ouvrier, et en même temps de donner dans le monde ouvrier un aspect de ce qu'est vraiment le prêtre, en dehors de toutes les apparences qu'il peut y avoir dans une société où tout est organisé, réglé, où l'on met des étiquettes sur les personnes. Et il y a certainement des prêtres qui, dans ce domaine-là, réussissent à manifester un visage tout différent de celui que croit être le monde ouvrier lorsqu'il parle du prêtre. Nous avons aussi beaucoup de prêtres qui sont en contact très étroit avec les chrétiens qui sont dans tous les milieux. L'action catholique de ce côté-là est bien développée dans l'ensemble du département. Ce sont au fond les chrétiens des différents milieux qui se réunissent ensemble et qui essayent de se demander comment ils peuvent vivre en chrétiens dans les milieux du travail. Alors nous avons un évêque ici à Orléans, Monseigneur, qui est très très attaché à cette forme de présence de l'Église dans le monde entier par l'intermédiaire des chrétiens qui vivent dans les différentes formes de la vie actuelle et qui pousse beaucoup ces prêtres à se soucier des problèmes du monde.
Est-ce que l'expansion d'Orléans vous a incité à prendre des mesures pour essayer de toucher les nouveaux
venus? Orléans était une ville tranquille. C'était une ville tranquille, paisible, disons une ville bourgeoise au bon sens du mot d'autrefois. Une ville sans histoire. Et vous avez une preuve que les habitants d'Orléans aimaient la tranquillité, c'est que lorsque fut inventée cette chose extraordinaire qu'on appelle les chemins de fer, les Orléanais de ce temps préférèrent la tranquillité de la ville au bruit des machines. Et c'est pourquoi ils refusèrent que leur ville reçût une gare. C'était bruyant, c'était l'occasion de mettre la perturbation. Alors la gare d'Orléans s'est créée en dehors d'Orléans, aux Aubrais. Et puis la gare d'Orléans s'est développée aux Aubrais. Et puis lorsque les Orléanais se sont aperçus que l'avenir était dans le chemin de fer, il ne pouvait plus être question de ramener la gare des Aubrais dans la gare d'Orléans. Alors voilà pourquoi vous avez deux gares à Orléans. Vous avez une petite gare qui assure la navette et qui rejoint les Aubrais. Et puis vous avez la grande gare de trafic qui est celle des Aubrais. Alors on a ça pour tout à peu près, voyez-vous. Orléans est une ville qui aimait sa tranquillité. Et puis Orléans s'est trouvé d'un seul coup bouleversé, n'est-ce pas? Parce que à la suite de 45 et de la guerre, Orléans est petit à petit devenu une zone industrielle, et puis c'était la décentralisation de Paris, et puis après c'était la création de l'université de la Source à Orléans. Et puis, il faut bien dire qu'il y a un maire à Orléans qui désire beaucoup, beaucoup le développement de la ville et qui a fait tout pour qu'il y ait ce développement industriel, pour qu'il y ait le développement intellectuel avec la création de l'Université de la Source, et puis qui fait tout pour que la ville ait des relations avec le monde entier. La ville est jumelée, n'est-ce pas, avec un certain nombre de villes étrangères. Et puis, les fêtes de Jeanne d'Arc sont l'occasion de renouer des liens d'amitié avec toutes sortes de nations étrangères. Si bien que tout cela a amené chez les Orléanais la nécessité de voir autre chose que la tranquillité. Je ne dis pas que les Orléanais sont toujours bien d'accord, parce que toute cette expansion impose évidemment des charges, et qu'ils aimeraient peut-être mieux avoir une bordure de rue, un trottoir bien pavé devant eux, toujours admirablement entretenu, plutôt que de savoir que l'on fait des travaux importants à la source pour pouvoir y construire l'université. Ils disent l'université c'est à 5 km, tandis que mon morceau de pavé il est devant ma porte. Alors, cela vous dénote un petit peu le désir de l'Orléanais d'avoir une vie un peu tranquille. Alors nous avons ressenti la même chose. Le clergé d'Orléans est un clergé extrêmement... c'était un clergé très très digne. Nous avons eu la marque pendant une centaine d'années, enfin, de personnalités très marquantes qui ont formé le clergé. Il y avait Monseigneur, un très grand évêque de France, et Monseigneur s'était beaucoup penché sur l'éducation de la jeunesse, et en particulier du jeune clergé. Et il avait exigé de son clergé une tenue, un ordre. Le prêtre devait être un notable du pays, non seulement dans le domaine de la foi et des mœurs, mais dans le domaine, n'est-ce pas, de la vie courante. Et puis nous avons eu des supérieurs de grands séminaires qui sont restés très très longtemps et qui ont donné au clergé une habitude de régularité, de sérieux, de foi profonde. Et il se mêlait, si vous voulez, dans le clergé orléanais, en même temps un souci de vie chrétienne profonde, de renoncement très grand, de très grande fidélité à son sacerdoce, et en même temps un désir de noblesse, de dignité, et il n'y avait pas de laisser aller à aucun point de vue. Nous avions un clergé, n'est-ce pas, très distingué, et c'est ce qui dans les diocèses des environs donnait l'occasion de quelques boutades. On disait, lorsqu'on parle d'un prêtre de Chartres, on dit c'est un gars de Chartres. Mais quand c'est un prêtre d'Orléans, on dit c'est un monsieur d'Orléans. Nous avions cette boutade, ce qui dénotait que il y avait quoi, un désir, non pas un désir, c'était la formation générale qui était donnée, et qui faisait qu'il y avait en même temps un sens de la dignité, en même temps qu'un sens du rôle profond du prêtre.
Le recrutement et la formation du clergé se font sur un plan local.
Jusque maintenant, le Loiret réussissait à avoir un séminaire avec 50-60 séminaristes, ce qui lui permettait d'avoir un séminaire à lui. Et Monseigneur, le prédécesseur de Monseigneur, avait toujours tenu à ce que le clergé soit formé dans le diocèse. Parce que pour lui, le clergé était formé pour un diocèse. C'était des prêtres, n'est-ce pas, originaires d'un pays. Ils étaient formés pour l'apostolat dans ce pays. et ils voulaient qu'ils soient en contact pendant leur formation au grand séminaire avec la pastorale, les moyens d'action qui étaient dans les paroisses, pour que le prêtre soit vraiment bien inséré dans son rôle. Et Monseigneur n'était donc pas partisan des regroupements de séminaires. Cela, évidemment, nous a fait critiquer aussi un peu par les voisins, parce que les voisins disaient « Nous aurions grand besoin d'avoir un séminaire commun parce que nous n'avons pas beaucoup de monde dans nos séminaires et il est difficile d'assurer toute la formation avec des effectifs restreints. » Et les diocèses voisins auraient bien voulu se regrouper avec celui d'Orléans. Et puis les choses ont évolué. Monseigneur a été remplacé par Monseigneur. Et Monseigneur a une toute autre vue. Et il désire au contraire beaucoup qu'il y ait des échanges. C'est un évêque qui est très missionnaire, puisqu'il a fait partie de la commission des missions au Concile. Et c'est un évêque qui est très lié avec beaucoup de prêtres de l'Afrique et de l'Amérique, qui circulent beaucoup, qui connaissent très très bien les problèmes du clergé et de l'Église, aussi bien en Afrique qu'en Amérique. Monseigneur est très souvent en contact avec ce clergé, et même très souvent aussi absent pour être en contact avec ce clergé. Et pour lui, le département n'est plus la cellule de base, c'est la région apostolique. Et il est donc tout à fait orienté pour un travail en collaboration avec les autres évêques. Et il se trouve en même temps que le nombre des séminaristes chez nous a beaucoup diminué. Si bien qu'il est impossible de faire vivre. Nous retrouvons, nous, la même difficulté qu'avaient les diocèses voisins. Et nous sommes obligés aussi, ne serait-ce que pour organiser vraiment un séminaire avec des études solides et des professeurs assez nombreux, nous sommes aussi obligés de nous regrouper. Si bien que le changement des personnes et la diminution du nombre des vocations nous ont amenés à nous insérer dans le mouvement régional. Et les jeunes du séminaire d'Orléans des deux premières années, c'est-à-dire les deux années qui suivent le baccalauréat, les deux années de philosophie, ne se font plus à Orléans, mais se font à Tours. Mais par contre, nous recevons dans les trois dernières années, pour les années de théologie, nous recevons les séminaristes des autres départements de la région.
Est-ce que, en fonction de tous les nouveaux besoins dont vous avez parlé tout à l'heure, la présence chrétienne dans les contextes industriels, par exemple, le problème du marxisme. Est-ce que, par conséquent, la formation des séminaristes a dû évoluer? Est-ce que le contenu a dû changer pour faire face à ces nouveaux problèmes par rapport à...
Eh bien, il y a d'abord... Alors, pour terminer justement ce que je disais tout à l'heure, nous étions, nous, dans l'Église, un peu marqués par le climat général d'un peuple sans histoire et tranquille et qui, depuis 20 ans, devant l'afflux de toute cette modernisation, nous avons été aussi amenés à repenser l'ensemble de la pastorale, ce que nous appelons la pastorale, c'est-à-dire le contact, au fond, du prêtre avec les chrétiens et avec les hommes de notre temps. Alors, je vous ai dit tout à l'heure les éléments de réponse, je dis bien les éléments de réponse. Il y a d'abord qu'il faut se connaître. Alors, on se connaît en étant en contact très étroit avec les chrétiens qui sont eux-mêmes engagés dans les différents milieux sociaux et professionnels, ce que je disais tout à l'heure de l'action catholique. Alors, il y a beaucoup de réunions sur la ville d'Orléans, de ces chrétiens, par milieu de travail. Alors, vous connaissez peut-être l'organisation française, enfin, elle doit être analogue dans les autres nations, de l'action catholique. Il y a le milieu ouvrier, il y a le milieu indépendant, il y a le milieu étudiant pour les jeunes, il y a un certain nombre mais le milieu agricole, tout le milieu rural. Alors nous nous efforçons, en tant que prêtres, d'être très à l'écoute de tous les problèmes de ces différents milieux. Alors cela, c'est le domaine, je dirais, du contact au premier degré, c'est-à-dire avec ceux qui, quand même, tout en étant de tous les milieux, ont déjà le contact habituel avec l'Église, c'est-à-dire des chrétiens de la paroisse. Et puis, il y a ensuite une recherche d'un contact plus direct encore avec ceux qu'on ne voit jamais à l'Église. Et alors, c'est l'expérience de ces prêtres dont je parlais tout à l'heure, prêtres ouvriers dans le monde du travail, qui prennent un métier. Et puis, il y a les expériences de religieux, missionnaires, qui sont venus s'implanter dans le diocèse, dans le monde rural, et qui sont en contact direct avec les gens du pays. Je pense aux frères missionnaires des campagnes. C'est le but de la congrégation de venir vivre au milieu des ruraux. Alors, soit des ordres religieux d'hommes qui vivent au milieu des ruraux en allant faire la moisson avec eux, à la manière des ouvriers dans les entreprises, et qui retrouvent leur communauté le soir. Ils sont, si vous voulez, hommes avec les hommes, ils sont travailleurs avec les travailleurs, et en même temps, cela leur permet d'apporter, quand cela est nécessaire, la réponse de l'Évangile aux problèmes des gens, ou alors simplement de vivre dans une grande charité, d'une grande amitié. Car au fond, c'est de là que part à peu près tout le reste. Alors, il y a aussi les sœurs missionnaires, des sœurs missionnaires des campagnes, qui de la même manière s'en vont travailler comme aide familiale, vont faire la cuisine, vont faire le ménage dans les familles. De plus en plus, au lieu d'avoir des ordres religieux qui vivent entre eux, dans le travail manuel et la prière, mais d'un travail manuel qui est uniquement chez eux, nous avons des religieux qui s'en vont travailler en dehors comme des salariés, qui en sont au minimum vital, et puis qui se retrouvent pour la prière, la vie de communauté, le soir, le dimanche, mais qui dans la journée sont des travailleurs dans les différents milieux, partout. C'est, voilà quelques essais, si vous voulez, de contact avec ceux qui ne viennent pas habituellement. Oui. Mais le problème des prêtres est très difficile parce que nous ne sommes pas très nombreux. Et le simple service paroissial est lui-même très absorbant, très très absorbant, car bien qu'il n'y ait pas une pratique religieuse abondante de la part des chrétiens, nous avons cependant une quantité de Français qui viennent demander à la paroisse les services religieux quelquefois dans leur vie. Et c'est toujours l'occasion des baptêmes, des premières communions, des confirmations, des mariages, des enterrements. Mais il y a très peu de prêtres, si bien que si on le voulait, depuis le matin jusqu'au soir, on serait toujours uniquement dans son bureau à recevoir ceux qui viennent, il y aurait toujours du travail. Et alors, nous avons dans le clergé deux courants. Le courant de ceux qui disent « mais nous avons déjà un travail qui est considérable en recevant les personnes qui viennent nous voir, ne serait-ce que pour les conseils à recevoir » ou pour des actes religieux qui sont à préparer, comme des baptêmes, comme des mariages, comme des communions, des enfants, alors nous n'arrivons déjà pas à faire face à ce qu'on nous demande, nous ne voyons pas comment nous pourrions encore aller au-delà de ce qu'on ne nous demande pas. Et puis, il y a d'autres prêtres qui disent, mais ceux qui ne nous demandent pas ne nous demanderont jamais. Donc, si nous n'y allons pas les premiers, l'Église n'aura jamais de contact avec tous ceux qu'elle ne voit jamais. Donc, il vaut mieux laisser tomber la demande de ceux qui viennent nous trouver, en mettant sur la porte « absent », et puis s'en aller, pendant ce temps-là, prendre la pelle et la pioche, ou le pinceau, ou le marteau, et passer sa journée dans une usine à travailler avec ceux qui travaillent. Et là, on verra des quantités de gens qui ne viennent jamais. Mieux vaut mettre absent à ceux qui viennent que d'être absent de tous ceux que l'on ne verrait jamais. Alors vous avez deux courants d'esprit, deux manières de voir les choses différemment, qui toutes les deux s'inspirent d'un même désir d'être fidèle à la mission que l'on a reçue, qui est une mission de présence dans le monde et d'annonce de l'Évangile dans le monde. Mais les deux manières qui partent d'un même principe sont diamétralement opposées. Les uns disent « pour être présent, restons », les autres disent « pour être présent, partons ». Mais les deux veulent être présents. Alors entre les deux, il y a ceux qui essayent d'être en même temps et présents et absents, c'est-à-dire qui savent très bien qu'ils ne peuvent pas s'engager à longueur de journée dans la vie du travail des hommes parce qu'ils estiment que ce n'est pas leur place, qu'ils ont un autre ministère à faire, mais qui essaient quand même d'être extrêmement près des soucis de leurs paroissiens. Alors, vous entendez dans l'Église des personnes qui se plaignent en disant nous ne voyons plus nos prêtres. Vous avez beaucoup de malades qui disent autrefois, il y a 20 ans, il y avait dans la paroisse un prêtre qui voyait tous les malades, qui leur rendait visite. Maintenant, quand on sonne, quand on appelle au téléphone pour avoir un prêtre, il n'y a jamais personne. Ils sont toujours partis. Et il est vrai que le genre de ministère est différent. Le prêtre autrefois faisait le catéchisme pour tous les enfants. Nous cherchons maintenant des méthodes où dans les différents quartiers, dans les rues, dans les différentes implantations, ce sont des chrétiens qui font le catéchisme aux enfants du coin. Alors c'est tantôt un père de famille après son travail le soir, c'est une maman dans la journée quand ce sont des plus petits, c'est un peu toutes les catégories sociales, il y a des ouvriers, des professions libérales, il y a de tout. Et nous essayons, si vous voulez, de faire en sorte que toute la communauté chrétienne soit associée au rôle de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas simplement la hiérarchie, ce n'est pas simplement l'évêque et les prêtres. L'Église, c'est tous les chrétiens. C'est le peuple de Dieu.
Cette idée, évidemment, est d'origine, si l'on peut dire. Mais est-ce que c'est une idée qui ne reprend pas, justement, aujourd'hui, renouveau de force?
Ah si, partout. Je crois qu'il y a certainement une orientation très nette de l'Église aujourd'hui sous le souffle de l'Esprit-Saint parce que le Concile a fait reprendre conscience davantage à tout le monde que l'affaire de l'Église, que l'affaire de la foi, ce n'est pas l'affaire simplement de l'évêque, du pape ou des prêtres, mais que c'est l'affaire de tout le peuple chrétien. Cela est certain. Maintenant, l'Esprit-Saint se sert de tout ce qui est humain pour faire passer des courants d'esprit dans le monde. Et le fait qu'il n'y ait plus beaucoup de prêtres et qu'il y ait beaucoup de jeunes, puisqu'il y a partout un mouvement démographique important, le fait qu'il y ait moins de vocations et qu'il y ait de plus en plus de jeunes amène automatiquement à tirer cette conclusion que pour que tous les jeunes soient évangélisés, il faut s'y prendre par un autre moyen que par le moyen seulement des prêtres. Car s'il fallait continuer à prendre les méthodes d'autrefois pour évangéliser tous les jeunes, eh bien cela voudrait dire qu'il ne faut pas évangéliser les trois quarts des jeunes parce qu'on ne pourrait pas. Alors cela amène à chercher des moyens. Et le moyen, eh bien, c'est de revenir à la chose d'origine, c'est de comprendre que c'est la cellule familiale qui est la première des cellules d'éducation et que lorsqu'il y a des familles qui ne peuvent pas faire cette éducation chrétienne des enfants, eh bien, le mieux, c'est que la famille d'à côté accepte de s'en occuper. Et quand il y a 3, 4, 5 familles qui ne s'en occupent pas suffisamment, on essaie de trouver une famille qui veut bien prendre en charge le coin. C'est une affaire de stratégie. Je crois que le Saint-Esprit parle, n'est-ce pas, par tous les éléments qu'il peut y avoir dans le monde, et en particulier par l'intelligence humaine, qui fait trouver des moyens, et qui fait revenir, comme vous le disiez, à l'origine. C'est la cellule de base qui est la famille et puis le groupement dans le quartier, qui fait la prise en charge des jeunes du quartier. Et voyez-vous, dans les sacrements de confirmation autrefois, l'on cherchait les parrains de confirmation, plus ou moins au dernier moment, pour essayer d'avoir quelqu'un qui soit là, pour que le jour de la confirmation, à côté de l'enfant qui est confirmé, il puisse y avoir l'adulte qui mette la main sur l'épaule en signe de protection et de parrainage. On le cherchait la veille ou l'avant-veille, peut-être quand on était en avance, 15 jours avant. Mais on cherchait à ce qu'il y ait, le jour de la cérémonie, une personne qui soit là visiblement pour faire le geste. Bon. Mais cette personne, après, dès le lendemain, elle s'en allait. Elle ne se souvenait plus du tout qu'elle avait été choisie pour être parrain de confirmation. C'est-à-dire que le rôle de protecteur et d'éducateur de la foi du jeune était complètement oublié. On cherche maintenant beaucoup plus à prendre comme parrain de confirmation les gens du coin, même s'ils ne sont pas de la même famille. C'est tel chrétien de tel endroit qui accepte d'être parrain de confirmation du petit garçon du voisin. Et cela, c'est beaucoup mieux, parce que le petit garçon qui grandit, il voit vivre le monsieur qui est à côté. Et pour lui, c'est un parrain. C'est un parrain qu'il voit, ce n'est pas un parrain qui s'en va. Et c'est une responsabilité aussi que l'adulte sent davantage. Il se sent plus responsable de son secteur. Ce ne sont pas des points de vue orléanais que je vous donne là.
Non.
Ce n'est pas très commode de vous donner des choses purement orléanaises.
Oui,
je vous donne un aspect, n'est-ce pas, de l'église d'Orléans, mais au milieu de l'église de France.
Justement, dans tous ces changements, une des choses qu'on conteste, puisque c'est le mot à la mode, dans tous les domaines, et quelquefois il me semble peut-être justement, ce sont d'anciennes conceptions de l'autorité. Eh bien, évidemment, l'Église est une organisation qui doit tout à son autorité. Est-ce que cette conception, enfin, change beaucoup? Est-ce que quels sont, si l'on veut, quel est le poids spécifique, disons, du traditionnel et du nouveau dans les conceptions actuelles de l'autorité?
C'est-à-dire que dans l'Église, le principe de l'autorité, il n'est pas contesté. Ou tout au moins, il n'est pas contestable. Le principe de l'autorité. Ce qui est contestable, c'est la manière dont l'autorité est exercée. Mais à partir du moment où on dirait que l'autorité est contestable par principe, nous estimons qu'on ne fait plus partie de l'Église catholique.
Oui.
Puisque l'Église a été constituée sous une forme de hiérarchie de par l'Évangile, au moins c'est notre conception catholique, n'est-ce pas, de l'Église, n'est-ce pas, qui a été constituée avec un chef. Et s'il y avait le collège des apôtres, il y a toujours eu dans l'Église le chef à qui est revenu le privilège de l'autorité. Donc, si vraiment quelqu'un disait en pleine conscience et en pleine volonté, et après avoir mûrement réfléchi et non par boutade, qu'il nie le principe de l'autorité dans l'Église, il peut toujours le nier. Mais alors, à ce moment-là, qu'il ne le nie pas au nom de l'Église, qu'il le nie au nom de sa position personnelle, n'est-ce pas, de sa conception personnelle. Donc, le principe de l'autorité dans l'Église, nous l'admettons. Seulement, ce qui est certainement très modifié, c'est la manière d'exercer cette autorité. Certainement. Cela vient de très haut, puisque le pape lui-même a donné l'exemple avec toute cette collégialité et puis tout ce qu'il a dit dans le concile, enfin comment il a voulu s'entourer nos conciles, non seulement des évêques catholiques, mais même des observateurs protestants, orthodoxes. Il y a donc un mouvement très large, si vous voulez, de consultation, c'est un mouvement en même temps de compréhension envers tout le monde. Et puis, il est bien dit que l'être humain étant essentiellement fait de liberté, le commander de telle manière qu'on soit sûr qu'il s'insurge, ce n'est certainement pas une bonne manière de le commander. Alors, il faut mettre beaucoup de psychologie. Et il est certain que lorsqu'une décision a été davantage partagée, si vous voulez, lorsqu'elle a été préparée, il est certain que plus nombreuses sont les personnes qui ont étudié la chose, plus évidemment on est prêt à accueillir la décision. Je crois que c'est un effort de psychologie que nous avons à faire dans l'Église. Et que s'il y a une réforme à faire, c'est dans ce domaine du respect, si vous voulez, des personnes qui doivent être commandées, afin qu'elles soient elles-mêmes associées à la décision qui sera prise. C'est un effort de psychologie, c'est toute une pastorale nouvelle, mais c'est dans le domaine de l'adaptation, c'est dans le domaine des méthodes. On ne concevrait plus maintenant un évêque qui, avec sa crosse, n'est-ce pas, à la main, dirait « ce sera comme ça parce que je le veux », n'est-ce pas? Notre évêque, certainement, est à l'opposé de cette méthode. C'est un homme de dialogue, mais il ne dira jamais le contraire de ce qu'il désire dire. Parce qu'il sait très bien que la vérité vient d'en haut et que la vérité, elle est dans l'Évangile. Et que l'adaptation de la vérité à notre monde d'aujourd'hui ne doit pas faire en sorte que la vérité puisse changer. C'est la foi qui juge le monde, et non pas le monde qui doit juger la foi. Il faut rentrer dans les conceptions de la foi plutôt que la foi rentrer dans les conceptions du monde. Enfin, voilà la position de l'Église.
Oui, oui.
Mais il est certain que nous avons un effort considérable à faire pour faire en sorte que l'exercice de l'autorité soit modifié, que la manière d'exercer l'autorité soit modifiée. Mais alors il ne faut pas tomber dans l'excès opposé, qui sous prétexte qu'autrefois il y a eu, n'est-ce pas, une autorité trop forte,
pour qu'on ne puisse pas faire le tour de la civilisation française sans avoir des vues catholiques.
Oui, d'accord.
Adjan, nous avons peut-être des vues.
Je regrette de rompre la continuité de ce qui a précédé.
C'était fatal.
Enfin, nous avons parlé surtout des problèmes et dans un certain sens du côté négatif de l'époque actuelle. Si nous regardions les choses d'une façon plus positive, l'Église au Moyen-Âge nous a laissé ce fantastique réseau de cathédrales. Est-ce que vous voyez un héritage possible laissé par l'Église de notre époque? Un héritage comparable aux cathédrales qu'a laissé l'Église au Moyen-Âge?
Oui. Oui, vous voulez dire à cela qu'il y avait, n'est-ce pas, au Moyen-Âge, une vie chrétienne intense. Bon, cette vie chrétienne intense, nous ne la voyons plus, parce que les hommes sont morts. Mais nous voyons leur œuvre. Pas, et nous disons, une population qui a été capable de construire ses chefs-d'œuvre, avec tout ce que cela représente d'énergie, de dépenses, de force de bras, de collaboration de tout le monde, c'est la manifestation d'un idéal extraordinaire, et nous ne voyons plus que cela. Et nous en tirons la conclusion, ils étaient donc profondément chrétiens. Alors, la question que vous me posez est celle-ci, est-ce qu'il restera dans l'avenir des signes tangibles, matériels, de notre christianisme d'aujourd'hui.
Peut-être pas même tangible, pas forcément matériel.
Parce que c'est extrêmement difficile de... C'est extrêmement difficile de définir ce que peut avoir de tangible une vie chrétienne. Nous disons, n'est-ce pas, au Moyen-Âge, la cathédrale, le fait d'avoir construit des cathédrales, c'est un signe tangible d'une foi de tout un peuple. Alors, cette foi, elle s'est manifestée par les cathédrales, mais elle se manifestait aussi par toutes les œuvres de charité multiples qu'il pouvait y avoir, puisque le service social, le service charitable était exécuté, si vous voulez, par des ordres religieux, à l'abri de l'Église. Vous aviez tout le service scolaire, de l'enseignement, qui se faisait aussi à l'abri de l'Église. Et nous disions, il y avait une chrétienté profonde, bien consciente de sa foi, parce que la preuve en est qu'il y avait toutes ces œuvres extérieures d'éducation, de service social, et puis d'aide aux malheureux, et enfin de lieux de culte. Alors, si on veut raisonner, n'est-ce pas, de la même manière en ce moment, nous sommes très mal placés parce qu'il y a une évolution considérable qui a fait que les services que l'Église avait pris en main au Moyen-Âge sont des services qui sont pris maintenant en main par l'ensemble de l'État. Le service scolaire, le service charitable, le service social, toutes les œuvres qui pouvaient exister et qui ont amené, si vous voulez, les hommes à prendre conscience du devoir de solidarité entre eux. Tout cela est coordonné maintenant par l'État. Beaucoup d'entreprises privées encore, beaucoup d'œuvres privées encore assurent ce service des hommes grâce à l'aide de l'État, c'est un véritable service national, mais on ne peut pas dire que des monuments ne devant plus rester comme étant des monuments d'église comme ceux du Moyen-Âge, la présence d'église n'existe plus. La présence d'église au Moyen-Âge se manifestait par des bâtiments, la présence d'église en ce moment se manifeste par la présence des chrétiens partout dans les services qui existent et qui sont des services plus ou moins rattachés à la notion de l'État, de la cité, de la ville, mais où travaillent les chrétiens en tant que citoyens et avec une âme de chrétien. Ils y travaillent en tant que citoyens et sur les registres du personnel ou sur les registres d'état civil, ils figurent sur leur nom de citoyens. Mais l'esprit qu'ils y mettent, l'ardeur dans le service, la conviction du devoir rempli, le désir d'être aimable et charitable dans le travail que l'on accomplit en même temps pour gagner sa vie et faire vivre sa famille, tout cela c'est du christianisme profondément vécu, mais c'est un christianisme qui ne se marquera dans aucune construction dans l'avenir. On n'aura pas l'idée dans l'avenir, lorsque l'on verra d'immenses hôpitaux, d'immenses sanats, de dire c'est un signe de l'Église. On dira c'est un signe d'une période pendant laquelle on s'est soucié de la santé des citoyens, pendant laquelle il y a eu une solidarité. Quand on verra plus tard un immense édifice et qu'on dira c'est l'édifice de la sécurité sociale, on n'aura pas l'idée de dire c'est un édifice d'Église. Mais en fait, les citoyens qui ont vécu là, quand ils sont chrétiens, ils ont une certitude de remplir une mission d'église à l'intérieur de ce service social, même s'ils ne font toute la journée que des cartes perforées, parce que, en définitive, cela aboutit toujours à un service de l'homme. Alors, c'est difficile de répondre à votre question. Est-ce que les bâtiments de l'avenir témoigneront de la vitalité de l'église ? Je crois que les bâtiments de l'avenir témoigneront de l'esprit de charité, de solidarité d'une période. Et que c'est un des aspects primordiaux de l'Église que de permettre à des citoyens de développer en eux l'esprit de solidarité et de charité parce que justement, il considère les hommes non pas comme des numéros qui travaillent dans une usine, non pas comme des automates, mais vraiment comme des frères. Et une civilisation qui met sur pied un véritable service social, éducatif, comme notre monde d'aujourd'hui, ne peut pas le faire sans une conception chrétienne de l'homme.
Et pourtant, beaucoup d'initiatives dans ce domaine-là viennent non seulement ne viennent pas de l'Église, mais viennent de milieux qui, du point de vue idéologique, souvent sont assez éloignés de l'Église.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui. Mais je crois, n'est-ce pas, et je crois, je suis même persuadé, qu'il ne faut pas s'en tenir, si vous voulez, à des étiquettes. Milieu éloigné de l'Église ou milieu non éloigné de l'Église. Il faut se dire, n'est-ce pas, qu'on est dans un monde qui a été forgé par 20 siècles de christianisme. Et que les gens qui nous disent qu'ils ne sont pas de l'Église parce qu'ils sont ou marxistes ou athées, ils ne peuvent pas ne pas nous dire qu'ils ont leur grand-père, leur arrière-grand-père, qui a eu son grand-père et son arrière-grand-père, et depuis des siècles et des siècles et des siècles, marqué par l'idée de charité. Et de marqué par l'idée de dévouement. Et marqué par l'idée de sacrifice. Et que tout cela, c'est dans l'Évangile. Et que même quand on ne veut plus faire le rattachement avec la religion ou avec la foi, et qu'on est persuadé que c'est la gloire de la nature humaine que de pouvoir revendiquer l'origine de ces idées de charité et de solidarité, il n'empêche que, inévitablement, parce qu'on est bâti comme on est bâti, parce qu'on a une hérédité, on porte en soi le sens du christianisme.
Oui. Que diriez-vous à ce point de vue de quelqu'un, disons, dont la tradition aurait été juive et non pas chrétienne, musulmane? Musulmane moins, parce que c'est moins ancien, mais...
Mais ne croyez-vous pas que dans la religion musulmane, on retrouve, par toutes les idées de dévouement, de sacrifice, on retrouve tout l'essentiel de l'Évangile?
Oh, je serais d'accord avec vous. Mais à ce moment-là...
Que dans l'Évangile, on retrouve beaucoup de choses.
Oui, oui, oui.
De la religion juive, pour ne pas dire tout, enfin revu à la manière du Christ, si bien qu'en définitive, on se sépare avec des étiquettes, mais dans ce que l'on est dans notre nature.
Mais où je voudrais en venir, si vous voulez, si tout cela est vrai, si dans la religion juive, si dans toutes les religions, et est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans toutes les grandes philosophies, dans la mesure où ces philosophies traitent de l'homme, on retrouve constamment les mêmes thèmes. Est-ce qu'à ce moment-là, même les marxistes, qui puisent dans une tradition de l'unité humaine, n'est-ce pas, à leur façon, est-ce que même eux, ils ne pourraient pas trouver une certaine justification dans cette tradition sur laquelle ils...
Dans la mesure où, dans le marxisme, nous nous arrêtons à toutes les idées nobles qui sont le service de l'homme et la volonté de paix et la volonté de solidarité, je crois qu'on aurait bien tort de vouloir se séparer.
Oui. C'est-à-dire que vous croyez que même avec les marxistes, c'est un dialogue possible.
Il y a toujours le dialogue possible jusqu'au jour, n'est-ce pas, où on veut en arriver à la philosophie profonde du marxisme, qui, elle, ne peut plus du tout s'allier avec la foi, étant donné qu'à la base du marxisme, il y a une négation profonde de toute foi.
Oui, mais qui n'est pas le fait du seul marxisme, d'ailleurs.
Qui n'est pas le fait du seul marxisme, c'est un matérialisme de base, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas très bien comment, en dehors, si vous voulez, de cet aspect qui peut nous relier, et qui est dans l'action, dans la solidarité, on ne voit pas très bien comment nous pourrions franchir le pas qui consisterait à dire « nous sommes d'accord sur la civilisation de base ». Quand on sait, n'est-ce pas, comment pour la philosophie marxiste, la religion est le premier obstacle, si vous voulez, à tout développement humain, parce que c'est le renoncement à ce qu'il y a de plus digne dans la vocation humaine, et dans l'aliénation de l'homme pour reporter sur un être imaginaire tout le dynamisme qu'il y a dans l'homme. Bon, c'est ça, le marxisme vis-à-vis de la religion, c'est l'aliénation, c'est dire au fond tout ce qu'il y a de noble chez nous comme aspiration, vous le faites venir de Dieu. Et alors qu'en fait, ça nous est propre. Et alors comme les apparences de religion, disons bien souvent de religiosité ou de superstition, prêtent flanc à la critique du marxiste, parce qu'il est réel que l'on attend tout bonnement qu'il nous tombe du ciel ce que l'on pourrait simplement conquérir par nos forces humaines, alors le marxisme a très beau jeu de dire le sens de la prière chez vous, c'est simplement une des marques de l'aliénation. Vous attendez que vienne d'un autre ce que vous pourriez obtenir vous-même. Alors, évidemment, considérez sous ce jour-là, que voulez-vous, le marxisme pas beau jeu, c'est très facile.
Oui, mais enfin, je ne crois pas que pour un catholique...
Pour un catholique convaincu, le marxisme n'aura pas de prise, attention.
Non, non mais je ne crois pas...
Mais je crois qu'il a énormément de prise, parce que nous avons énormément de défauts.
Oui.
Je crois qu'il faut bien le reconnaître.
Ce que j'allais dire, c'est que pour un catholique... profondément catholique, je ne suppose pas que la prière consiste non plus à demander quelque chose en attendant que ça vienne.
Que ça vienne, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi je vous dis, pour un catholique convaincu, le marxisme n'a certainement pas de prise, mais il a une force considérable, parce que nous avons beaucoup de défauts,
oui.
Je disais, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup d'occasions de critiquer l'attitude chrétienne. On ne peut pas aujourd'hui parler de cela, n'est-ce pas ? C'est trop long.
Oui.
Mais... cela est très, très vrai.
Mais enfin, la question du dialogue ne peut pas, il me semble, ne pas être importante dans un pays comme la France, qui compte un si grand nombre de gens qui sont anticléricaux, qu'ils soient marxistes ou autres. Dans quelle mesure, d'après vous, est-ce que l'Église porterait une certaine responsabilité pour cette division qui s'est opérée, je crois,
depuis 150 ans
au 19e siècle,
oh, oui. Oh, le problème, c'est le problème du monde entier. L'Église a paru et a été très liée à la classe précédente.
Oui.
Alors, en partant de là, vous en tirez toutes les conclusions que vous voulez. Le marxisme en a tiré la première conséquence. Puisqu'ils sont ensemble, ce sont les mêmes qui sont en même temps les chrétiens et les possédants. Cela veut dire que la force des chrétiens, c'est la richesse, et cela veut dire que la richesse, pour se développer, a besoin de la religion. La religion a besoin de la puissance, et la puissance a besoin de la religion. Alors, la religion a besoin de la puissance pour s'imposer et se répandre, et puis la puissance a besoin de la religion pour travailler les esprits, de façon à faire admettre docilement que l'on a besoin sur terre d'être exploité pour mériter le paradis. Et quand celui qui a la puissance a la chance d'avoir sous ses ordres des gens qui sont heureux d'être exploités parce qu'ils vivent dans l'espérance du paradis, eh bien il n'a pas de gêne. Il peut continuer à développer, n'est-ce pas, son entreprise, il ne sera gêné par personne. Car plus ils seront exploités, plus ils seront heureux, puisque plus ils seront exploités, plus le paradis sera beau. Bienheureux êtes-vous, vous qui souffrez, parce que plus tard, n'est-ce pas, vous aurez un monde merveilleux. Alors, vous savez, moi je peux faire des sermons là-dessus, et puis montrer que l'Évangile est une abomination, n'est-ce pas, au service de la classe possédante, pris comme ça. Or, c'est cela, si l'argument de base a été celui-là. Alors, pourquoi est-ce que cet argument a pris ? Ben, il a pris parce que, en fait, les gens n'avaient qu'à ouvrir les yeux pour s'apercevoir que ceux qui fréquentaient l'Église, c'était en même temps la grande majorité de ceux qui possédaient la richesse. Alors, quand on dit aux gens, vous n'avez pas à faire un long raisonnement, vous n'avez qu'à ouvrir les yeux, regardez, puis vous comprendrez tout de suite. Alors... il est facile, évidemment, de jeter la pierre à ceux qui ont vécu il y a 100 ans, quoi, 150 ans. La manière dont ils exerçaient leur service de charité, on l'appelle le paternalisme. Enfin, vous connaissez mieux que moi, vous êtes professeur de philosophie en plus, n'est-ce pas? Excusez-moi, on appelle ça le paternalisme, ça n'a rien à voir avec le respect de la dignité humaine. C'était le moment, c'était la période, c'était la manière de faire, la manière de penser à ce moment-là. Les choses ont complètement changé maintenant. Complètement changé maintenant.
Est-ce que tout le monde en France, au sein de l'Église, est unanime sur la question de la séparation de l'Église et de l'État? Ou bien...
En France?
Oui.
Or, en France, c'est la quasi-unanimité.
Oui. De quel point de vue? Enfin, de quel côté?
Bah, pour dire que ça donne bien satisfaction à tout le monde.
Oui.
Je vous dirais que on peut envisager la chose sous bien des jours. Hein. On peut dire, lorsqu'il y a eu la loi de séparation de l'Église et de l'État, les catholiques ont été profondément opposés. Et il y a eu à ce moment-là la spoliation de tout ce que possédait l'Église, les églises, les presbytères, les biens des ordres religieux. Vous savez, je me demande bien quelle est à l'heure actuelle la paroisse qui voudrait avoir sur les bras la charge de l'entretien de son église. C'est un bienfait que d'avoir une église qui est la propriété de la commune, parce que c'est la commune qui l'entretient, c'est la commune qui fait tous les travaux, et la commune le met à la disposition de l'église catholique. Que voulez-vous de mieux? Nous n'avons pas de loyer à payer et nous n'avons pas de réparation de toiture à faire. Et je commence là par l'aspect très matériel des choses, parce que c'est celui qui est le plus sensible. Et comme je suis ici secrétaire général de l'évêché chargé des biens du temporel, du diocèse, c'est-à-dire des églises, des presbytères et des constructions des églises neuves, je vous dirais que maintenant que nous sommes obligés de construire des églises neuves, nous n'aurions qu'un souhait, c'est que l'église nous prenne celle que nous avons construite depuis 1905. Car nous avons été spoliés en 1905, mais depuis 1905, nous avons construit des églises, et surtout depuis 1945. Et toutes les églises que nous construisons, elles sont notre propriété, et nous devons les entretenir. Tandis que toutes celles qui ont été construites par les siècles précédents, même quand elles ne sont pas des églises très belles, même quand elles ne sont pas prises en charge par les beaux-arts, elles sont toujours la propriété des communes, donc nous n'avons pas d'entretien à faire. C'est qu'il est infiniment plus agréable de vivre chez les autres que de vivre chez soi. Parce que lorsqu'on vit sous le toit des autres, ce sont les autres qui font les réparations. Alors, la conséquence la plus grave de la loi de spoliation, ça serait si la commune nous disait « Nous mettons les églises à la disposition des bals, des théâtres ou des sportifs ». Mais puisqu'ils nous disent « les églises restent à votre disposition », nous sommes dedans comme chez nous, personne n'est jamais venu nous faire de difficultés. Donc c'est un aspect. Bon, alors, certainement, pour entretenir les biens d'église, l'église avait autrefois, avant la loi de spoliation, des biens de rapport. Elle avait des fermes, des cultures, elle avait des vignes, elle avait des choses comme cela. Mais puisque nous n'avons plus à entretenir les églises, nous n'avons pas besoin de chercher des ressources pour faire les frais. Alors, on nous a pris ce qui dépendait, n'est-ce pas, des églises. Mon Dieu, on a pris en même temps les charges. Alors, ça s'équivaut. Et ça nous donne moins de soucis. Mais là où il y a un autre aspect matériel plus difficile, c'est que, avant la loi de spoliation, l'État payait les prêtres. Les prêtres étaient des fonctionnaires depuis le Concordat. Alors, du jour au lendemain, les prêtres n'ont plus rien eu. Alors cela a produit, sur le moment même, un mouvement d'indignation. Parce que on a considéré que l'État rejetait le rôle du prêtre dans la société en disant l'Église, au fond, ne sert à rien dans la société. Or, si l'Église n'a pas pour but de servir à quelque chose dans la société, nous disons quand même que c'est toujours un bien pour une société, dans son organisation matérielle, que d'avoir la présence de citoyens qui ont la foi. Et que c'est un bien, certainement, pour l'ensemble d'une nation, que d'avoir chez les citoyens le sens du dévouement, du service, de la charité, qui est inévitablement lié avec la véritable foi. Mais ce domaine-là, mis à part, qui est une conception qui peut être différente chez les citoyens, ce domaine-là, mis à part, il est certain que nous nous sommes trouvés devant des difficultés énormes. Car du jour au lendemain, il a fallu faire vivre l'ensemble du clergé qui jusque-là vivait de par les traitements de l'État. Cela a eu deux conséquences, me semble-t-il. D'abord sur le clergé lui-même. Apparemment, nous avons peut-être pensé que c'était une conséquence désastreuse, parce que le nombre des prêtres a diminué. Mais tout compte fait, on s'est aperçu que les prêtres qui rentraient dans le sacerdoce, parce que c'était une situation assurée et tranquille, car l'État assurait le traitement régulièrement jusqu'à la fin de la vie, et que ceux qui rentraient dans l'Église, dans le sacerdoce, avec cet arrière-plan, que c'était quelqu'un dont l'avenir était assuré, et cette idée n'était pas étrangère à beaucoup de familles qui devaient placer leurs enfants. C'était toujours un très gros avantage que d'en avoir un qui pouvait rentrer dans le sacerdoce, car c'en était toujours un qui était assuré d'avoir son gain jusqu'à la fin de sa vie. S'il y a eu, n'est-ce pas, évidemment, un recul dans le nombre des vocations, il y a eu certainement un enrichissement dans la nature des vocations. Car le fait de devenir prêtre, en sachant très bien qu'il y a tout le risque qui consiste à être à la merci des autres et à la charité vis-à-vis des autres, cette vocation est évidemment plus réfléchie. Et puis alors, il y a eu un autre aspect, cet aspect-là, je dirais, c'est vis-à-vis du clergé. Puis alors, il y a eu un autre aspect vis-à-vis des fidèles, c'est que l'Église a dit aux fidèles, que voulez-vous, nous ne pouvons plus vivre maintenant avec le traitement de l'État, si vous voulez avoir des prêtres, gênez-vous un peu et faites-les vivre. Et il y a eu, si vous voulez, un mouvement de solidarité plus fort entre les chrétiens pour pouvoir prendre en charge la vie de leurs prêtres. Donc, je trouve que ce sont deux avantages, voyez-vous, très nets. Et alors, pour en venir, n'est-ce pas, à votre question, est-ce que vous êtes désireux de revenir à un régime concordataire ou pas, je dirais qu'en ce moment, l'Église ne désire pas changer sa position. Je vous ai parlé du côté matériel, je vous parle du côté spirituel. L'Église aime beaucoup la liberté. Et le fait d'être en concordat lie certainement davantage l'Église et le pouvoir. En soi, dans l'abstrait, il ne devrait pas y avoir de difficulté, parce que l'Église est tout à fait pour une organisation de la nation, elle n'est pas du tout pour l'anarchie. L'Église dira toujours, il est normal qu'une nation soit organisée. Et l'Église, raisonnablement, on devrait dire que des prêtres dans une nation rendent un service au moins aussi éminent qu'un cantonnier. Or, le cantonnier, il a sa vie assurée parce qu'il nettoie les caniveaux. Un prêtre a une influence sur l'éducation générale des jeunes, autrement plus importante que le travail d'un cantonnier, Et il serait donc normal en soi que le prêtre reçoive un traitement de la nation. En soi, il est normal que le prêtre puisse recevoir ce traitement sans être lié au gouvernement de telle ou telle période dans la vie de la nation. Le traitement, il devrait venir du service qui est accompli et non pas de l'obéissance à tel pouvoir donné dans telle période en soi. Mais ça, c'est de la théorie. Et comme ce qui vient de la nation vient toujours par l'intermédiaire de l'État, car la nation n'a de pouvoir exécutif que par l'État qui la gère, recevoir un traitement de la nation implique automatiquement une certaine subordination à l'État qui régit la nation. Et l'Église, qui aime beaucoup la liberté, ne voudrait pas que le fait de recevoir de la nation des subventions ou des traitements oblige à dire oui à tout ce que commande l'État. Vous voyez tout ce que cela peut avoir d'imbrication politique et Église, Église et pouvoir civil. Et comme le pouvoir civil, l'État, c'est le pendule, si l'Église apparaît comme liée avec le mouvement du pendule lorsqu'il est à gauche, le jour où le pendule ira à droite, il faudra que l'Église suive le pendule à droite. Alors, l'Église désire être indépendante du pendule. Et si recevoir des subventions de la nation l'oblige à suivre le pendule de l'État, elle aime mieux n'avoir pas les subsides de la nation plutôt que de se sentir liée à la politique du moment. Je ne présente pas nécessairement l'opinion de l'Église française. Je vous donne certainement l'opinion de l'ensemble des prêtres de France et de beaucoup d'évêques.
Oui.
Je crois, un très grand nombre d'évêques.
Est-ce que tu n'avais pas des questions?
J'aurais certainement une autre question. Il faut sauter, évidemment. Oui. Mais tout à l'heure, vous avez parlé des origines des services scolaires. Et vous avez dit, excusez-moi de vous citer, que cette charge a été reprise par l'État. Il me semble tout de même qu'il est resté une part assez importante du service scolaire, qui est, enfin, je ne sais pas comment le dire, sinon contrôlé au moins sous l'égide de l'Église, n'est-ce pas? Or, est-ce que vous accepteriez de nous parler un peu de l'enseignement libre, de son importance, de ses rapports avec l'enseignement de l'État, par exemple, peut-être des rapports avec le ministère?
Oui, lorsque je vous ai parlé tout à l'heure de cette question de reprise en main par l'État d'un certain nombre de services qui étaient autrefois accomplis par l'Église, je vous ai fait une petite assise, n'est-ce pas? Et j'ai bien dit qu'il y avait encore énormément de services privés qui rendaient un service d'intérêt national. Moyennant quoi, l'État se trouvait lié, parce que c'était un service réel de la nation, lié à des obligations. Alors la question que vous me posez, elle est évidemment très, très nette. Je dirais que je la connais plus particulièrement par cœur, celle-là, parce que je m'occupe de la direction de l'enseignement libre ici à Orléans, et que si vous me la posez comme ça, c'est bien parce que vous savez ce que, sans doute que je m'occupe de la question. Mais
vous l'avez posée de toute façon.
Oui, j'allais poser de toute façon. Notre point de vue est celui-ci, hein, que l'éducation de base, c'est essentiellement le rôle de la famille. Et qu'il est normal que les familles s'entendent entre elles pour assurer dans un esprit commun l'éducation des enfants dans la ligne même de l'éducation qui est donnée dans la famille. La formation du jeune C'est en même temps la formation d'un jeune chrétien, d'un jeune citoyen, et puis d'un jeune en tant que jeune, n'est-ce pas ? Et c'est à la famille, qui a reçu toutes les autres obligations qui sont les siennes, d'assumer également cette formation générale du jeune. Et que si les familles ne peuvent pas réussir à assumer cette éducation de leurs jeunes, pour des raisons multiples, c'est un rôle de l'État de le faire. C'est donc l'État qui remplit une mission de suppléance par rapport aux familles lorsqu'il est évident que les familles ne peuvent pas le faire. Je dis les choses très nettes, c'est très cru, mais c'est la doctrine de base, tout le reste en découle. C'est aussi le principe qui fait que nous sommes si divisés entre chrétiens en France sur ce domaine. Ce principe, il a été redit dans la déclaration de l'éducation chrétienne au moment du Concile. L'État assume une mission de suppléance par rapport aux familles. Et les Français disent, et dans ces Français, beaucoup de chrétiens, et de chrétiens convaincus, les plus dynamiques, disent, les familles assument une mission de suppléance tant que l'État n'a pas réussi à assumer complètement sa mission d'éducation. Pendant très longtemps, l'Église a aidé les familles à faire cette suppléance. C'était le cas de la chrétienté d'autrefois, des ordres religieux. Mais l'idéal, c'est que l'État réussisse à remplir sa mission. Et le jour où l'État remplira sa mission, il n'y aura plus besoin de suppléance et donc il n'y aura plus besoin d'enseignement privé. Le jour où l'État aura rempli sa mission, il aura rempli sa mission complète d'éducation et d'enseignement, sa mission complète de service social, sa mission complète, n'est-ce pas, de colonies de vacances, d'hôpitaux, de soins, de culture générale, d'éducation permanente, du berceau au cercueil, l'État sera là pour veiller sur chacun de ses citoyens, et ce jour-là, nous serons arrivés dans la situation parfaite où tout étant fait par l'État, il n'y aura plus rien à suppléer. Alors, toutes nos divergences viennent de ça. Qui fait la suppléance et qui fait de droit l'essentiel ? Pour les catholiques que nous sommes, puisque je me mets dans cette catégorie-là, nous estimons que l'essentiel, c'est la mission des familles, et des familles qui, en groupement, en fédération, réussissent à faire en sorte que, dans l'établissement, on assure la continuité de l'éducation de base. Dans ce cas-là, l'État assume une suppléance. Pour les autres, les familles le font, et nous devons continuer à le faire, parce que si on ne le faisait pas, pour l'instant, l'État n'est pas capable de faire tout, mais c'est nous qui faisons la suppléance et nous sommes appelés à disparaître. Voilà les deux positions diamétralement opposées. Alors, entre ces deux positions diamétralement opposées, il y a la position très réaliste qui consiste à dire que dans un État où la divergence d'opinion est telle que l'on ne peut pas envisager que des établissements confessionnels puissent rallier l'opinion de tous, il est absolument indispensable qu'il y ait les deux. Et non pas les deux d'une manière temporaire, mais les deux d'une manière définitive. Et qu'il est absolument indispensable que les familles aient la liberté complète d'organiser le service de l'enseignement selon leurs convictions profondes pour que l'enfant grandisse dans un milieu qui est un milieu imprégné de l'esprit chrétien, car ce qui fait l'éducation chrétienne, ce ne sera pas les quelques demi-heures d'enseignement chrétien, mais c'est la réaction habituelle de la vie dans un milieu. C'est comme ça qu'on est éduqué, c'est pas par de la théorie, de l'abstraction, c'est pas un cours théorique, c'est une réaction de vie dans un milieu, comme dans un milieu familial. l'enfant qui prend les habitudes de ses parents sans s'en apercevoir, et c'est non pas par théorie, mais par pratique. Alors, nous disons cela, il y a ça, et puis il est nécessaire qu'il y ait aussi un service de l'État, neutre, qui répond aux aspirations de ceux qui ne veulent pas d'un enseignement confessionnel. Mais alors, nous considérons quand même très bien que cette liberté ne peut pas être une liberté absolue. La liberté des familles qui veulent constituer des établissements d'enseignement dans la ligne de la mentalité de la famille, ça ne peut pas être une liberté absolue, car nous sommes intégrés dans une nation et il y a les problèmes de la nation et c'est l'État qui est chargé de régler les problèmes de la nation. Et nous pensons que l'État a un rôle de planification, un rôle d'orientation, n'est-ce pas, un rôle de prévision de l'avenir, de son organisation, qui fait que le collège d'enseignement privé ne peut pas être en dehors des problèmes nationaux. Car la meilleure manière de former le jeune n'est pas simplement de lui donner une formation et un enseignement de sa foi, mais c'est en même temps de l'intégrer dans le problème de la nation. Et on ne va pas dire quand même, n'est-ce pas, que l'on forme un jeune en vase clos, alors que son avenir, c'est de s'intégrer profondément dans la vie d'une nation où les problèmes sont réglés à l'échelon de l'État. Alors, nous reconnaissons donc qu'il est indispensable que les services d'enseignement privé soient profondément, si vous voulez, insérés dans une éducation nationale générale, où l'État a un droit de contrôle, un droit d'organisation, il a un droit de planification, il a un droit de centralisation quand c'est nécessaire, ou de régionalisation quand c'est nécessaire. Et ça ne sert à rien de vouloir préparer des jeunes dans des collèges pour faire tel métier si dans l'avenir il n'y a pas de débouché. Il faut donc rentrer dans une perspective générale. Et autant les parents réclament leur liberté pour pouvoir donner une éducation chrétienne, autant ils sont d'accord pour collaborer de très près avec les orientations de l'État, parce que les spécialistes qui sont dans l'État pour prévoir, si vous voulez, l'avenir, sont vraiment des gens extrêmement compétents et très intelligents. Et ce serait vraiment ridicule de vouloir passer en dehors de tout cela. Nous concevons donc la liberté, si vous voulez, comme tout un service d'enseignement dirigé par des familles, mais en même temps au service d'une nation. Et ce service de la nation doit s'intégrer dans la politique générale d'un État. Mais alors, moyennant ce service que nous apportons dans une nation, nous disons qu'il est normal que l'État qui gère le budget de la nation réserve une partie de son budget à faire vivre ce service qui est un service d'intérêt national. Voilà notre position de base. Alors tout le reste en découle. Tout le reste en découle. Alors nos relations vis-à-vis de le ministère, ça consiste à dire au ministère, nous avons des établissements qui répondent à un besoin scolaire. La preuve, c'est qu'ils ont des effectifs qui sont suffisants. Nous avons des établissements qui sont susceptibles de répondre à vos exigences. La preuve, c'est que nos professeurs ont les diplômes qui sont donnés par vous, État. Nous avons des réussites aux examens qui prouvent que les études sont solides. Nous sommes dans des locaux qui sont des locaux qui sont valables, où il y a l'hygiène, où il y a tout ce que vous voudrez. Nous avons besoin, pour développer ces locaux, d'avoir des emprunts, d'avoir des garanties, d'aller voir une ville pour demander est-ce que la ville veuille bien donner sa garantie pour permettre des emprunts à long terme. N'est-ce pas ? Nous offrons toutes les garanties que demande l'État, moyennant quoi, nous demandons à l'État de bien vouloir payer les maîtres et donner des subventions pour permettre le fonctionnement de l'administration d'un collège. Nous sommes très loin d'avoir obtenu tout ce que nous désirons. Il y a beaucoup de points qui sont restés en litige, je ne les aborde pas là, mais l'essentiel pour vous, c'est de connaître notre philosophie de base.
Allez, je vous remercie de l'avoir exposé d'une façon si inattendue et si saisissante.
Voilà, la philosophie de base.
Qui est d'ailleurs la partie la plus intéressante?
Que voulez-vous ? On assure un service qui est un service réel. L'État n'est pas chargé de dire « je veux que les jeunes soient formés comme ça », l'État dit « j'ai des citoyens qui sont intelligents et libres ». Si ces citoyens qui sont intelligents et libres veulent former leurs jeunes de telle ou telle manière, moi je leur demande simplement une chose, c'est que toutes les garanties soient prises pour que ce qui est fait soit bon. S'il se produit qu'une alliance de la foi et de l'intelligence donne de bons résultats et que l'État s'aperçoive que ce sont des citoyens qui sont valables, il n'y a pas de raison que l'État dise, sous prétexte que l'on a mêlé l'intelligence et la foi, je ne veux plus de ce qui en sort. Mais vous abordez le sujet le plus dur qui soit dans l'Église de France. Le plus dur, car si les chrétiens sont divisés en ce moment dans l'Église de France, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord sur ce rôle des institutions. En particulier sur ce rôle scolaire, mais aussi beaucoup sur le rôle des cliniques, des hôpitaux, des œuvres d'enfants inadaptées, dès lors qu'on voit, n'est-ce pas, un institut quelconque se monter dans l'Église de France, ayant pour but le monde scolaire, la charité, immédiatement, vous avez beaucoup de chrétiens dont le poil se hérisse. Et ils disent que c'est une abomination. Car au lieu d'être dans la ligne de la disparition de la chrétienté du Moyen-Âge pour une insertion dans l'État de demain, nous essayons toujours de vouloir reconstituer notre chrétienté du Moyen-Âge, qui était la chrétienté du Moyen-Âge, mais qui ne doit plus être la chrétienté de demain. Car s'il est vrai qu'au Moyen-Âge, l'Église était visible, il est certain que demain l'Église doit être invisible. Et leur raisonnement, c'est moi qui schématise, mais serait à peu près celui-ci. Quand on est visible quelque part, on n'est pas visible à côté. Pour être présent partout, il faudrait être visible nulle part. Dès lors qu'ils voient que les chrétiens sont visibles quelque part, ils en tirent tout de suite la conclusion que puisqu'ils sont visibles là en communauté, dans une école ou dans un hôpital ou dans une œuvre d'enfants handicapés, n'est-ce pas, ou d'enfants anormaux, puisque les chrétiens sont là visibles et réunis dans cette communauté, cela veut dire qu'ils ne sont pas présents dans les établissements organisés par l'État. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'ils sont visibles à un endroit en communauté qu'ils se désintéressent de ce que fait l'État dans un autre service. Et il y a bien des chrétiens qui travaillent dans un autre service avec le même dévouement où il n'y a aucune étiquette. La liberté, c'est la liberté. Mais c'est déchirant pour le clergé de France. C'est déchirant. Je ne sais pas combien de temps durera cette déchirure, et pourtant elle ne devrait pas se réparer par l'abandon soit d'une option, soit d'une autre. Il faudrait qu'elle se répare avec une compréhension que dans un monde où il y a de la liberté elle est non seulement dans la liberté des personnes, mais la liberté des institutions.
Cette attitude ne correspond-elle pas à une attitude française qu'on voit dans d'autres domaines qui a en quelque sorte tendance vers le monolithique dans l'organisation de l'État, du moins vu avec un œil d'anglais, on a cette impression d'une tendance vers la centralisation qui nous choque très souvent. Nous admettons plus volontiers peut-être.
Je ne voudrais pas entrer dans un procès, parce que vous sentez très bien qu'à partir du moment où je parle de ce sujet, j'en parle avec le maximum de modération, mais vous sentez très bien que j'ai une option personnelle qui est quand même très marquée. Étant donné tout ce que nous faisons dans l'enseignement libre, je ne peux pas dire que je n'y sois pas profondément attaché. Seulement, évidemment, l'option, si vous voulez, de mes confrères qui parlent de ce problème-là serait assez bien celle-ci. Il est inévitable ou souhaitable que demain tout soit nationalisé. Voilà l'optique fondamentale. Cela est inévitable. Ou cela est tellement, tellement souhaitable que l'ensemble des Français ne peut pas le désirer et le réaliser, que tout soit nationalisé. Puisque l'Église doit être présente au monde d'aujourd'hui et au monde de demain, et puisque le monde sait la nationalisation en voie de réalisation, il est donc nécessaire que dès aujourd'hui, L'Église s'adapte à ce monde et y rentre de plein cœur. Et au lieu de maintenir des institutions d'éducation, de services, de soins ou sociales de toutes sortes, qu'elle supprime tout cela et que les chrétiens soient libérés de tout cela et qu'ils soient présents dans les institutions qui demain seront les seules. L'Église n'a pas à être présente au monde d'hier, elle a à être présente au monde d'aujourd'hui qui prépare celui de demain. Donc qu'aujourd'hui, elle prenne d'elle-même avec beaucoup de cœur et de spontanéité l'orientation qui demain lui sera imposée. Et puisque l'Église d'aujourd'hui reconnaît que le plus grand des bienfaits du début du siècle a été la spoliation et la loi de séparation, et que de la loi de séparation, elle a trouvé une vigueur nouvelle, qu'elle continue à faire d'elle-même ce que l'État a voulu faire au début du siècle, et qu'elle abandonne d'elle-même, qu'elle se débarrasse d'elle-même de tout ce qu'elle a, afin d'être présente dans les institutions des hommes. Et Kant, n'est-ce pas, cet argument s'appuie sur l'esprit du Concile, en disant « c'est l'esprit du Concile que d'être présent dans les œuvres des hommes », alors nos confrères nous disent « nous ne voyons pas pourquoi vous voulez vous obstiner à continuer à maintenir des structures qui sont faites pour des chrétiens ».
Donc vous n'avez pas moins de débats que dans tous les autres domaines de la vie nationale et locale et familiale.
Je dirais même que... Oh, non, c'est parce que c'est fini votre affaire. Je dirais même que les événements de mai que nous avons passés nous donnent raison. Car il n'y a jamais eu un tel tollé contre la centralisation administrative de l'État français pour que nous revenions à des structures plus régionales, plus locales et plus autonomes. Nous n'avons jamais eu à la Chambre des députés autant de discours pour expliquer qu'il fallait quitter la centralisation